Radio Kawa présente Ludographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gou. Thème de l'émission.
Cette émission ne sera pas consacrée à un jeu vidéo en particulier, mais s'interrogera sur ce qu'on appelle le jeu vidéo indépendant, dans ses nombreuses dimensions. Néanmoins, il sera fait notamment mention d'Undertale, développé par Toby Fox et sorti en 2015 sur les plateformes de téléchargement.
Première partie, tentative de définition.
Cette saison de ludographie comparée fut particulière pour plusieurs raisons. Personnelles notamment, sur lesquelles je ne m'étendrai guère, thématiques surtout, puisque je n'ai parlé ici que de ce que l'on nomme des jeux vidéo indépendants. Je l'avais déjà fait par le passé, et j'avais pu parler notamment de Braid ou de Stanley Parable. Dans les émissions en direct, des questions concernant ces jeux indépendants reviennent également régulièrement. Cela n'est guère surprenant. Le jeu vidéo dit indépendant est considéré, à tort ou à raison, comme un formidable terrain d'expérimentation pour les game designers. Pourquoi ici et non ailleurs ? La question mérite d'être posée, et c'est ce que ce numéro un peu particulier de l'émission se propose de faire. Réfléchir, moins à la place du jeu vidéo indépendant au sein de l'industrie tout entière qu'à son rôle et, éventuellement, son essence, son étymon spirituel, pour reprendre une expression employée récemment, et, allons jusque-là, son avenir, du moins spirituel, encore une fois. Car il y a là, à ce qu'il me semble, un point aveugle quant à sa destination qu'il nous faut bel et bien interroger. Le jeu vidéo est certes un média commercial, pur produit de la société de consommation, mais il n'est pas parfaitement isolé de considérations artistiques, du moins, le débat peut être posé. Et certains développeurs de revendiquer, à tort ou à raison, mais là n'est point notre propos, une création plutôt qu'une production. Et pourtant, là où ce débat pourrait réellement exister, par l'intermédiaire de jeux au parti pris aussi fort que Papers, Please, Vivi, Hotline Miami, Journey et j'en passe, l'on se rabat sur des considérations purement mercantiles. Et considéré comme un jeu vidéo indépendant, un jeu, souvent développé par une équipe réduite, bien que cela ne soit pas nécessairement le cas, met en marge des gros studios brassant des millions de dollars de chiffre d'affaires. Quelle tristesse ! Alors que d'aucuns n'hésitent pas, et avec raison, à considérer tel film de Tarantino comme indépendant, l'on se demande parfois, en s'essayant à des jeux s'écartant des partis pris de l'industrie, les Portal, les Oddworld, les God Hand ou les No More Heroes, voire si l'apostille ne pourrait pas convenir. Autrement dit, est-il possible de proposer une définition concentrée, sémiotique, signifiante du jeu vidéo indépendant hors de cette caractéristique financière, industrielle et capitaliste? Il nous semble, et nous l'avions relevé lors de notre émission sur Super Meat Boy, que le jeu vidéo indépendant travaille avant et surtout par retranchement, par retrait au regard d'une norme, réelle et supposée, de ce que doit être un jeu vidéo selon le genre, l'époque, la plateforme selon lesquelles il existe effectivement. La contextualisation est nécessaire et indispensable. Choisir de faire aujourd'hui un jeu de plateforme en deux dimensions est nécessairement un choix ludique, un choix de game fort, compte tenu de l'immense majorité d'environnements tridimensionnels qui s'offrent aux joueurs, mais ne l'était pas il y a encore 20 ou 30 ans où cette représentation était la norme. Un jeu vidéo indépendant, et nous l'avions déjà souligné en étudiant The Stanley Parable, se lit également au regard du moment où il est produit. Et il n'est pas interdit d'en faire comme une illustration des tendances et des modes qui traversent le média dans la mesure où il va prendre leur chemin contraire. À la façon d'une contre-histoire du jeu vidéo, le jeu vidéo indépendant est une sorte de baromètre ou de thermomètre du média. Il peut être considéré, et nous le répétons également, comme l'équivalent de l'avant-garde en peinture et en littérature, et le restreindre à une simple problématique de moyens ou, disons-le, d'ambition, est incroyablement réducteur. C'est en ce sens, je pense, que l'on peut considérer des jeux comme Shenmue et Shenmue 2 comme des jeux indépendants, et ce nonobstant leur paternité célèbre et le poids du studio qui le créa, dans la mesure où il faisait véritablement figure d'apax dans leur contexte de production. A l'inverse, le futur Shenmue 3, financé par le crowdfunding, l'un des modes de financement les plus goûtés, dit-on, de cette catégorie spécifique du média, le sera difficilement, dans la mesure où le jeu d'aventure a véritablement connu une nouvelle gloire ces dernières années, même s'il demeure un genre mineur. Nous considérerons alors, et ce sera la première conclusion de notre saison consacrée aux jeux vidéo indépendants, que ces derniers se définissent avant tout par un écart au regard de la production actuelle, qui se traduit généralement et de façon patente par une absence ou une suppression au regard des attentes des joueurs, que ce soit absence d'un signe ou réduction maximale d'un game-em, indépendamment de toute autre considération. Le futur combat du jeu vidéo indépendant, et je terminerai ici cette première partie réflexive, sera de se revendiquer en tant que tel et de réellement promouvoir le travail de ses développeurs et créateurs et d'établir la responsabilité des hommes et des femmes qui font les jeux plutôt que celle des sociétés qui les abritent et la réflexion sémiotique que l'on peut trouver dans ces jeux en particulier.
Deuxième partie, servir et protéger.
Il y a peut-être également autre chose à prendre en considération. L'identité et l'éthique, peut-on dire, des différents acteurs du jeu vidéo. Pour les grandes compagnies, et si ce n'est quelques noms qui surgissent ci et là, soit de leur chef, soit car mis en avant précisément par les entreprises qui les paient, l'on a souvent l'impression d'entités sans visage, sans nom, des forces sans bras. On dit « c'est Nintendo, c'est Sega, c'est Capcom ou Konami », mais il ne nous vient pas à l'esprit d'aller ailleurs. Dans le jeu vidéo indépendant, en revanche, l'identité des différents acteurs et créateurs fait tout. Cela tombe, éventuellement, sous le sens concernant le crowdfunding, puisque l'engagement financier tient, précisément, sur une relation de confiance entre celui qui donne et celui qui reçoit. Mais au-delà de ça, il me semble également que cette transparence participe en plein à l'identité du jeu vidéo indépendant. Notre société moderne, traversée par le capitalisme qui l'a, quelque part, formée, est bien plus immanente qu'on le croirait de prime abord. Il ne s'agit pas tant d'une immanence spirituelle, religieuse, que de signifiance. Quelque part, les tentaculaires compagnies et surcompagnies supplémentaires, les trusts et métatrusts, nous font oublier que ce sont des êtres humains qui les dirigent, construisent et les font vivre. On dit « c'est Nintendo » et ainsi de suite. Et ces dieux modernes de faire tomber, sans que l'on ne voit jamais les petites mains qui les apportent, les jeux dans nos magasins, nos serveurs, nos échoppes. La mode du dématérialisé n'a fait qu'amplifier ce curieux phénomène d'un univers pragmatique étrangement éthéré. Le jeu vidéo indépendant, par cette nécessaire identité, remet l'homme, l'être humain, au centre des préoccupations et peut prétendre, alors, à la sensibilité. Une grande compagnie n'est pas signifiante. Elle n'est pas là pour faire des sentiments ou prendre en compte des choses bassement humaines. Nous le savons toujours intimement. Des milliers de licenciés, des délocalisations, des baisses de salaire peuvent émouvoir, mais n'empêcheront pas de reprendre du caprice des dieux à la fin du repas. C'est la fatalité inhumaine, déshumaine. Le Seigneur donne et le Seigneur reprend. En revanche, un jeu vidéo indépendant est une entité à part, spécifique, unique et surtout sensible. Cela n'est pas sans qualité. Elles sont nombreuses et j'en ai égrené certaines au cours de cette saison. Mais cela n'est pas non plus sans défaut. Et nous sommes bien plus tolérants face aux imprécisions, aux erreurs, aux manquements que nous n'aurions pourtant nullement pardonné chez les grandes compagnies. À raison ou à tort, cela n'est pas pour moi ici le lieu de le dire, mais il me semble que ceci peut être, également, l'une des forces du jeu vidéo indépendant. Jugeons plutôt. Comme les auteurs paraissent et sont effectivement plus tolérables, il en va également des choix atypiques ou intrigants. Si cela ne fonctionne pas, on excusera celui qui aura eu l'idée avant de l'oublier. Si cela fonctionne en revanche, tout un chacun d'hurler au génie et de consacrer ce qui pourrait très bien être, dans certains cas, et encore une fois sans que nous ne nous prononcions sur ceci ou cela, qu'un coup de chance ou qu'une lubie du hasard. Il nous semble alors que cette identité du jeu vidéo indépendant, cette image, cette représentativité sensible, lui permet pleinement d'appartenir à l'avant-garde vidéoludique. Cela explique, du moins, ce pourquoi l'on trouve les idées les plus novatrices dans le cadre de cette portion du média, non dans l'autre. Une compagnie ne saurait réellement se pardonner un échec de nouveauté, alors qu'un développeur indépendant saura toujours rebondir, du moins, son échec ne signifiera pas nécessairement le chômage de centaines, mais d'un seul, lui-même.
Troisième partie, imiter, s'inspirer, revendiquer.
Nous avons vu au cours de cette saison que le jeu vidéo indépendant fonctionnait souvent par retrait ou par omission. On ne peut cependant retirer qu'à partir d'un ensemble constitué. Et c'est aussi l'un des moteurs de la surréférentialité que l'on peut trouver dans ce domaine du média. C'est cependant un autre principe que celui qui régit Link's Awakening, dont nous avions jadis parlé, et dans lequel les appels du pied aux autres jeux Nintendo permettent de construire, ou ici, de déconstruire, la diégèse. Dans le jeu vidéo indépendant, il me semble que la référentialité s'installe dans une relation complexe entre le ou les créateurs et les joueurs, relation faite de nostalgie, de clin d'œil et même de surprise. Prenons pour ce faire l'exemple d'Undertale qui cristallise ces questions-ci. Toby Fox, le créateur d'Undertale, a fait ses armes, on le saura, en créant des hacks d'un fameux jeu Nintendo, Earthbound ou Mother 2. Il est donc évident qu'Undertale s'inspire, jusqu'au bout des ongles, du jeu de Shigesato Itoi. Ce rapport, ou cette relation, s'instaure de prime abord sur le mode de la nostalgie et de l'imitation, et c'est là encore un trait que l'on retrouve, à un niveau ou à un autre, dans la grande majorité des jeux indépendants. Pas toujours, mais que les initiales de Super Meat Boy soient similaires à celles de Super Mario Bros, que Vivivi s'inspire des graphismes du Commodore 64 ou, ici, qu'Undertale renvoie à Mother 2 sont davantage que des coïncidences. J'ai parlé de l'avant-garde littéraire plus haut. La même chose s'observe pour le cinéma ou ailleurs, et c'est un principe auquel je tiens profondément. On ne peut être créateur sans être soi-même un très grand amateur de l'art ou du média dans lequel on souhaite travailler. Les cinéastes sont avant tout des cinéphiles. Les peintres fréquentent chaque jour les salons. Les créateurs de jeux vidéo jouent aux jeux vidéo. Ce que nous faisons ici, dans le cadre de la ludographie comparée, est fait de façon inductive, sensible le plus souvent. Mais il l'est fait cependant. Les créateurs ont une connaissance aiguë, bien plus aiguë que quiconque ne faisant pas de jeux vidéo, votre serviteur en premier lieu, de sa grammaire. Mais tout comme le petit enfant apprend à parler en imitant ses parents ou ses camarades, et que l'on apprend, même adulte, de nouveaux mots en les reprenant et en les citant, les développeurs font des jeux vidéo en imitant les autres jeux vidéo. On observe même cela d'une façon très subtile et même si c'est sous un angle de création fictionnelle, dans The Beginner's Guide, où le premier jeu de Coda présenté par le narrateur est un niveau de Counter-Strike. Undertale, en ce sens, et nul n'est besoin de le montrer en long, est une réécriture, mi-nostalgique, mi-imitative, d'Earthbound. Cette tendance à la filiation est économique, non seulement pour le créateur qui peut reprendre tel quel des éléments éprouvés, mais également, et on l'oublie peut-être rapidement, pour le joueur qui, d'instinct, et à la condition qu'il connaisse effectivement la source d'inspiration, prend très facilement ses marques. On reconnaîtra intuitivement les codes d'un jeu de plateforme, de tir, de gestion, et ainsi de suite, grâce à un horizon d'attente qui est souvent générique, mais qui peut être, dans le cadre du jeu vidéo indépendant, spécifique et relié à une série particulière. En jouant à Undertale, de prime abord et de façon contre-intuitive sans doute, l'on jouera davantage à Earthbound en réalité. Et toute notre expérience de jeu sera en réalité construite en creux, par écart avec ce modèle, d'où notre sensibilité à l'omission, au retrait et à ce qui n'existe plus. C'est un passage obligé, et ceux qui le regrettent passeraient en réalité à côté de l'intérêt du jeu vidéo indépendant, ou même de l'intérêt d'une série en général. Il est souvent caricaturé, mettons, dans la série des Super Mario Bros., l'enchaînement ad lib des mêmes environnements. Prairie, désert, neige, monde de feu. Mais cela n'est pas de la paresse, du moins, pas uniquement. C'est aussi l'assurance d'une progression guidée, fondée sur des attendus graphiques et des attendus de gameplay qui rassurent le joueur et permettent de le sensibiliser aux écarts ou aux nouveautés éventuelles. Car il ne faut s'arrêter à l'imitation ou à la nostalgie. C'est là la première étape du travail. Vient ensuite, et la nuance est importante, une phase d'inspiration. On peut considérer l'inspiration, c'est du moins dans ce sens qu'on le prendra ici, comme une étape intermédiaire entre l'imitation et la revendication que l'on abordera ci-après. Il s'agit cette fois-ci d'expliciter ce qui était alors de l'ordre de l'intuitif touchant la grammaire du jeu vidéo et de trouver le signe, ou le game même, que l'on désire travailler et favoriser. Dans le cadre d'Undertale, à nouveau en s'appuyant sur Earthbound, on retiendra l'alliance du gameplay et de la diégèse. Tout Undertale peut être considéré comme une extension dans un jeu entier du tout dernier combat d'Earthbound où le joueur doit utiliser la commande Prey de Paula pour vaincre finalement Gigas. Undertale s'est donc là aussi construit par opposition et par retrait. Toby Fox, ayant pleinement isolé ce game-em, l'idée qu'une commande de combat a une influence intradiégétique et n'est pas à part de la conduite de l'intrigue, a dès lors ôté tout le reste, tout le gras. L'idée qu'il faille gagner des points d'expérience, avoir un inventaire fourni et équiper ses personnages, même avoir une équipe composée de plusieurs héros, et ainsi de suite. Undertale n'est pas une imitation ou une réécriture d'Earthbound, c'est une inspiration directe. Arrive alors, ainsi, le principe de revendication, qui est la finalité de tout acte créatif ou artistique. C'est une forme de justification qui peut être consciente ou ad hoc, c'est-à-dire comme allant de soi, et qui montre que l'objet créé peut prétendre à l'unique et à l'original. Cela semble évident, mais il faut le rappeler. L'acte créatif a pour finalité l'originalité à un niveau ou à un autre. Ce peut être une originalité globale, un nouveau tableau, une nouvelle musique, ou une originalité locale, une reprise ou une réécriture. Toute la question reste alors la justification. À partir de quel moment cet objet peut bel et bien se revendiquer comme original et transformant l'inspiration et l'imitation en quelque chose de neuf? C'est malheureusement aussi ici que la subjectivité survient, et les avis seront distincts selon le joueur. Pour Undertale, le plébiscite alla dans le sens de la justification intégrale, à tel point qu'on peut même se demander, sur le produit fini, et en oubliant la jeunesse du titre, quel pourcentage d'Earthbound on peut y trouver surtout, qu'en définitive, et si ce n'est cette attention portée au game-em et à l'un ou l'autre élément graphique, un symbole sur papyrus qui envoie celui des Starmen, les rayures de Frisk qui rappellent celles de Ness, etc., les liens entre les jeux s'avèrent finalement assez ténus. Mais d'autres n'ont pas vu cette originalité et cette justification, et ont trouvé les choses finalement plates, et ils auront parfaitement raison. Le jeu vidéo indépendant, compte tenu de son statut d'avant-garde, ne peut faire l'économie du débat, qui sera notre dernier point de discussion quant à cette problématique.
Quatrième partie, commun accord et accord commun.
Le jeu vidéo est le fait d'êtres humains. Il y a donc là de l'homme, comme dans tout ce que l'homme fait. En ce sens, il est naturel et même attendu qu'il provoque un débat et une confrontation sensée d'avis, d'opinions et d'arguments. L'essentiel n'étant pas d'atteindre un consensus, mais bien de créer un débat. L'art est une véritable démocratie, dans le sens prêté par Paul Ricoeur. Il se comprend comme traversé par des tendances et des avis contradictoires, irréconciliables, Et l'objet de la démocratie est de saisir toutes les tendances possibles, de les présenter de la façon la plus complète possible, et de laisser chacun se faire un avis. Le consensus ou l'affirmation, on le rappellera, sont les œuvres des régimes fascistes. La Chine affirme, il n'y a pas de prostitution chez nous, et on en pensera ce que l'on voudra. Ce principe néanmoins n'est pas totalement résolu dans le cadre du jeu vidéo, du moins, il est en tension avec son objectif commercial, car le jeu vidéo reste avant et surtout un objet de consommation de masse, avant d'être un mode d'expression artistique en plein. En ce sens, il ne peut faire l'économie d'une fiche de test au terme de laquelle le journaliste note, studieusement, différents critères plus ou moins définis, évalue tel ou tel aspect comme il le ferait d'une voiture ou d'une lampe de chevet. Imaginerait-on la même chose avec un livre ou le dernier roman de l'un ou de l'autre ? Point positif, les lettres sont lisibles. Point négatif, pas assez de verbes à l'imparfait. Ou au cinéma ? Point positif, les images bougent. Point négatif, pas assez de couleurs vertes. Dans ces arts, ces partis pris ou ces phénomènes seront considérés comme des choix sur lesquels il pourra toujours y avoir débat et discussion, soit du point de vue de l'esthétique et des canons de l'œuvre en question, soit du point de vue subjectif et sur les émotions qu'elle provoque. Mais dans le jeu vidéo, nous sommes traditionnellement soumis à des principes plus commerciaux qui se ramènent, finalement, à la question fondamentale de toute transaction mercantile, à savoir, est-ce que j'en ai pour mon argent ? Il me semble que c'est ce que cristallise la question du dématérialisé. Car, en définitive, le problème n'est pas de payer, mettons, 40 euros pour le dernier jeu Nintendo pour le télécharger sur la console, mais bien de payer autant pour avoir moins vis-à-vis d'une édition physique, alors que celle-ci n'ajoute finalement que du Connex, un boîtier DVD généralement qui, bon an, mal an, doit coûter 30 centimes, voire moins. Le jeu vidéo indépendant, en ce sens, est exempt de ces problématiques, quand bien même, évidemment, les coûts de production, de pressage d'un disque, d'une cartouche rentrent également en ligne de compte, mais cela reste possible, comme en témoigne la sortie récente de Shovel Knight en édition physique, et ne se délivre généralement qu'en dématérialisé. Une fois ôtés ces principes de fabrication et de distribution, l'on se rend compte alors que cela permet surtout d'avoir un rapport au jeu déconnecté de la dimension marchande du média, pour ne conserver que sa part d'humanité et, dès lors, ce qui permet de faire débat. Cela donne alors des situations étranges à ce qu'il nous semble. Et autant il l'est, dans le monde des jeux vidéo commerciaux, des références, des passages obligés dans chaque genre et qui font, soit par leur qualité, réelle ou supposée, soit par leur historicité, leur influence dans le monde du jeu vidéo, référence, et tous les joueurs devraient alors s'attarder sur ces derniers pour parfaire leur culture vidéoludique. Difficile ainsi de parler de plateforme sans parler de Super Mario Bros, de jeux de rôle sans parler de Final Fantasy, ou d'aventure sans évoquer The Legend of Zelda. En revanche, ces têtes de gondole, ces incontournables, ne semblent jamais issus des jeux indépendants. Plusieurs raisons à cela, leur caractère d'avant-garde, leur inspiration ou imitation trop affichée parfois, mais également cette invitation constante au débat, leur détachement vers le culturel et l'humain, qui fait qu'un consensus ne peut jamais être trouvé. Quelque part, Super Mario Bros, par sa grandeur, son incontournabilité d'être fasciste, du moins fascisant, c'est une malédiction offerte à tous les joueurs et à tous les développeurs. Undertale, VVVVVV, FTL sont des démocrates et ils ne pourront jamais faire l'unanimité. Il n'y a pas d'accord commun, il n'y a que des communs accords. Et ces communs accords de ne pas être portés vers la qualité intrinsèque de l'œuvre, car nous retomberions in fine sur une logique de test et de commercialité, mais bien sur l'intérêt que le jeu vidéo peut offrir au regard du média dans sa totalité. Ce qui doit faire débat, c'est son atypisme, son écart, sa différence. il faut qu'il y ait un endroit circonscrit où le débat peut exister. Et si je pouvais reprendre une formule qui a fait Florès, il faut tomber d'accord pour dire que nous ne sommes pas d'accord. C'est grâce à cela que le jeu vidéo peut réellement être indépendant. Il doit réellement provoquer un débat et exister par cet intermédiaire. Un jeu vidéo indépendant n'a nul besoin de faire les premières pages des sites consacrés pour exister. Si vous y songez, vous en apprenez l'existence par les forums, les podcasts, les blogs. Bref, par les modes d'information alternatifs. Plus rarement, par les médias institutionnalisés. Si l'on devait dès lors retenir une idée fondamentale concernant le jeu vidéo indépendant, son essence, son étymon spirituel, pour reprendre notre introduction, ce serait celle-ci. Un jeu vidéo indépendant est une œuvre qui, par sa nature, sa forme, son identité, ne peut prétendre au plébiscite et à l'unanimité, mais doit foncièrement provoquer un débat. Le débat n'est pas contingent, il est nécessaire. Et s'il existe, le jeu vidéo, quelle que soit son origine, peut prétendre à l'indépendance.
Cinquième partie, les avenirs et les surprises incertains.
Restons sur la signifiance, mais passons à de la sémiotique historique, si l'on peut dire, qui n'est si ça se trouve qu'un autre nom de l'histoire. Deux questions. Le jeu vidéo a-t-il toujours existé? Et existera-t-il toujours? Je ne suis pas historien. Je n'ai pas cette prétention. Aussi, je m'en vais m'appuyer sur les connaissances que je puis avoir du média et projeter, à partir de ça, des éventualités quant à son avenir, en général et en particulier. Petit travail prophétique que l'on pardonnera, après tout, nous sommes en fin de saison, et après tout, je suis indépendant. Je ferai bien un clin d'œil, mais vous ne pouvez pas me voir. Je pense que le jeu vidéo indépendant a toujours, constamment, profondément existé. Car finalement, l'indépendance, principe structurel, ne peut se concevoir qu'au regard d'une institutionnalisation. Or, le jeu vidéo n'était à l'origine qu'un gadget, qu'une amusette à part des exercices mathématiques, physiques et électroniques. On sait bien que les premiers jeux vidéo sont nés sur oscilloscope, dans les universités. Le jeu vidéo n'était jamais qu'un moyen de faire ceci, ou faire cela efficacement, ou parce qu'on pouvait le faire. Et encore maintenant, il y a de ces astuces de programmation, de moteur physique, qui demandent à trouver des astuces, des dérivatifs, pour faire ce que l'on veut de la façon la plus efficace possible. Il faut saisir, il me semble, mais cela a tendance à être oublié, que le jeu vidéo, tout comme d'autres instances de la culture dite populaire, s'est construit en écart de médias, d'amusement, de processus, dans le sens fort et philosophique du terme, institutionnel et institutionnalisé. À l'origine, l'essence même du jeu vidéo est d'être indépendant. Et c'est après que les compagnies, les constructeurs, certains éditeurs ont pu, grâce à leur poids financier, leur originalité ou leur chance, créer une sorte de contrepoint institutionnalisé de leur activité vidéoludique. Le processus fut long. Le fameux crash de 1983 a introduit la nécessité de la chose face à un marché qui était, au-delà de l'indépendance, bariolé d'amateurisme. Et Nintendo, lorsqu'il arriva ne serait-ce que sur le marché américain, présenta sa console comme un entertainment system. C'est pour moi réellement ici que naît le jeu vidéo officiel. Avant cela, tout était indépendance, et tout ce qui est le jeu vidéo aujourd'hui, en essence bien entendu, a alors été fait jadis. Rien de neuf, tout de refait. Le jeu vidéo a été alors, pendant plusieurs années, surtout officiel. Tout envieux de reconnaissance et, il faut le dire également, de réussite pécuniaire, il étouffait malgré lui la visibilité de ce qui se faisait à côté. Cela existait, mais cela restait difficile et souvent, faut-il le dire, médiocre. Il fallut attendre alors la démocratisation de certains supports, en premier lieu le CD-ROM, pour sortir du carcan de l'officialisation. On pourrait dire que la seconde naissance du jeu vidéo indépendant est concomitante à l'arrivée de ce support, sur PC d'abord, sur console ensuite, la PlayStation en premier lieu. certains magazines se sont attirés les ires des spécialistes en établissant qu'elle créa le jeu vidéo. Peut-être manquait-il un complément, une précision. On peut sans aucun doute parler de la naissance du jeu vidéo postmoderne, dont l'une des conséquences fut la nouvelle apparition du jeu vidéo indépendant, construit cette fois-ci non pas en opposition des autres formes médiatiques et culturelles, mais bien, structurellement, avec les autres jeux vidéo eux-mêmes. L'histoire du jeu vidéo indépendant s'est alors faite parallèlement à l'évolution des supports, l'arrivée du dématérialisé et d'Internet ne faisant qu'accélérer un processus qui était alors en germe. Si nous résumons ainsi les choses que nous avons présentées, faisons quelques formules. Le jeu vidéo fut indépendant, puis il se cacha. Enfin, il s'affiche, entier, orgueilleux parfois, mais, je me plais à le croire, honnête dans ses approches. Voilà pour ce qui est de ses origines. Qu'en est-il de son avenir? Nous avons vu, depuis des 10 ans, le jeu vidéo indépendant s'être développé à un point que l'on croyait inaccessible. Les méthodes de financement participatif ont permis à des projets audacieux de voir le jour et nous portons tous dans notre cœur, d'une façon ou d'une autre, ce titre-ci qui nous parla, qui nous plut, que l'on juge d'une qualité extraordinaire. Cela existera-t-il toujours? Est-ce qu'il y aura encore, dans une 10aine d'années, des jeux vidéo indépendants? Faisons une réponse du berger à la bergère, de berger normand même, et disons-le, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Si l'institution, comme souvent, reprend les acteurs, les forces, les moteurs de ceci ou de cela, sans doute y aura-t-il une période creuse du jeu vidéo indépendant avant le retour de celui-ci en grâce. En revanche, et je table davantage sur cette idée, je pense que les deux milieux existeront en parallèle parce qu'ils doivent se nourrir l'un l'autre. Le jeu vidéo indépendant a besoin de l'institution, du jeu vidéo traditionnel pour créer les écarts et les absences qui les nourrissent, et le jeu vidéo institutionnel a besoin du jeu vidéo indépendant comme d'un vivier de créateurs et même d'idées. On sait aussi que les grandes compagnies sont attentives à ce qui se passe à côté et recrutent régulièrement les innovants. L'avant-garde rentre toujours dans le rang avant que d'autres individus apparaissent et prennent leur place, et cela est bon. Cela est bon non pas pour une certaine idée de la rotation des personnes et des idées, cela est bon car ce faisant, le jeu vidéo s'approche du fonctionnement des autres médias et des autres arts. Je suis partisan, et j'ai défini le jeu vidéo indépendant comme cela ici, d'une approche signifiante, sémiotique de ces objets. Mais force est de reconnaître que ces objets se définissent aussi par des procédures et des intégrations au sein de champs sociaux, dans le sens bourdieusien du terme. Et quand bien même faudrait-il au jeu vidéo, et le jeu vidéo le fait de mieux en mieux, une explicitation de ses mécanismes et de ses grammaires, il lui faut également s'inscrire au sein d'un habitus. L'un des combats contemporains du jeu vidéo, qu'il est, à mon sens, en train de gagner, c'est bien de s'installer non plus en marge du reste, mais par rapport au reste. Et le jeu vidéo indépendant, étrangement, de le faire de la façon la plus intelligente qui soit, ce qui est finalement pas trop mal pour une bande de geeks et de geekettes qui vivent encore dans le garage de leurs parents.
Flash Info, la France a peur. Coups, meurtres, têtes arrachées, corps électrocutés, masques répugnants, bêtes horribles, démons rugissants. Nous venons d'apprendre le lancement d'un podcast sur le Japon. En direct, la réaction de Ségolène Royal. Radio Kawa présente LOL Japon. Animé, manga, jeux vidéo, visual novel, le pire et le meilleur du Japon.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
On est les démons du midi, tous les mois sur Radio Kawa.